vous invite à ouvrir votre Bible dans le Cantique des Cantiques. Nous allons commencer ce soir le chapitre 7. Alors le chapitre 6 que nous avions étudié la semaine dernière, je vous avais dit qu'il marquait une transition. Et avec le chapitre 7, on entame carrément le dénouement. Au chapitre 6, on entamait un dénouement, parce qu'une sorte de virage dans l'histoire, parce qu'on voyait que les personnages changeaient de ton, changeaient de manière de parler. Et là, au chapitre 7, on entre vraiment dans le dénouement. Là, on arrive à la fin de l'histoire. Et d'ailleurs, vous verrez que le chapitre 8 est un peu particulier, parce que c'est plus vraiment l'histoire en tant que telle, c'est surtout une succession de leçons à tirer de cette histoire. Et je rappelle que la fin du chapitre 6 s'était terminée sur ce passage où la Sulamite expliquait comment elle s'était retrouvée captive de la situation, parce qu'elle s'était elle-même laissée entraîner par les désirs, par la séduction qu'il y avait dans son cœur, là, par se laisser aller à ce désir, à suivre le cortège royal. Et ça, c'est très important, parce qu'on avait vu que c'était vraiment les versets clés qui nous faisaient comprendre toute l'histoire du Cantique des Cantiques. Mais c'est aussi très important, parce que c'est à partir, et c'est parce qu'il y a cette confession, cette reconnaissance de s'être laissée emporter par ce désir qui l'a amené, elle n'avait pas conscience de juste que cela amenait, qu'il y a cette transition et qu'il y a ce dénouement au chapitre 7. Alors, on va lire le verset 1er et on finira notre lecture à la fin du verset 10. Pas tout à fait la fin du chapitre 7, mais on verra ça la semaine prochaine. Alors, Cantique des Cantiques, chapitre 7, verset 1er, ce sont les filles du harem qui parlent et qui disent « Reviens ! Reviens, Sulamite ! Reviens ! Reviens ! Afin que nous te regardions. » La Sulamite répond: « Mais qu'avez-vous à regarder la Sulamite? Comme une danse de deux cœurs. » Les filles du harem répondent: « Ah, que tes pieds sont beaux dans tes chaussures, fille de prince. Les contours de tes hanches sont comme des colliers, œuvre des mains d'un artiste. Ton sein est comme une coupe arrondie où le vin parfumé ne manque pas. Ton corps est comme un tas de froment entouré de lys. Tes deux seins sont comme deux fans, comme les jumeaux d'une gazelle. Ton cou est comme une tour d'ivoire et tes yeux sont comme les étangs de Hesbon, près de la porte de Basrabim. Ton nez est comme la tour du Liban qui garde du côté de Damas. Ta tête est élevée comme le Carmel, et les cheveux de ta tête sont comme la pourpre. Un roi est enchaîné par tes boucles. » Salomon continue, prend la parole: « Que tu es belle! Que tu es agréable, ô mon amour, au milieu des délices. Ta taille ressemble aux palmiers et tes seins à des grappes. Je me dis, je monterai sur le palmier et j'en saisirai les rameaux. Que tes seins soient comme les grappes de la vigne, le parfum de ton souffle comme celui des pommes et ta bouche comme un vin excellent. » La Sulamite lui coupe la parole et lui dit: « Qui coule aisément pour mon bien-aimé et glisse sur les lèvres de ceux qui s'endorment. » Reviens, reviens, disent les filles du harem. Et c'est là qu'on comprend que le chapitre 7 nous fait rentrer dans le dénouement, parce que rappelez-vous que depuis le début, la Sulamite semble être comme prisonnière de la situation. Au chapitre 6, on sentait dans son vocabulaire qu'elle espérait un imminent rapprochement avec son bien-aimé. Et là, la manière dont les filles disent « reviens, reviens », c'est que visuellement, on se rappelle qu'il y a un codex scénique pour bien comprendre le Cantique des Cantiques. Les filles lui disent de, de revenir parce que la Tsulamite est en train de partir. Elle est en train de partir. Il y a là un véritable dénouement. Et nous réalisons qu'effectivement, la jeune fille est en train d'être libérée. Libérée du elle-même, du harem. Mais faisons attention, ce n'est pas Salomon qui lui offre la liberté. De la même manière, rappelez-vous, qu'on n'a pas vu dès le départ non plus Salomon la forcer à le suivre. Mais de la même manière qu'elle s'était laissée entraîner par son désir et qu'elle s'est rendue prisonnière, de la même manière, elle se libère elle-même de cette situation. Et nous reviendrons effectivement sur cette notion. Qu'est-ce qui a fait le dénouement pour que de captive, là, elle devienne libre, alors qu'on dirait qu'entre deux, il ne s'est rien passé de si particulier, mais nous reverrons ça tout à l'heure. Il y a un autre détail très important dans ce verset premier, c'est que c'est la première fois que l'on mentionne son nom. C'est vrai que depuis le début du récit, on appelle la jeune fille la Tsulamite, parce que c'est son nom, mais depuis le début du récit, jamais on employait son prénom. Tsulamite a un double sens. Parce que ce sont des mots hébreux qui ont des racines, et il y a deux racines. La notion, on peut traduire la Tsulamite par la parfaite, mais on peut aussi traduire la Tsulamite par la paisible. La paisible. Et on pourrait se dire, mais qu'est-ce qui fait que ce n'est que maintenant qu'on ne connaît son prénom? Bah, tout simplement parce qu'il n'y a que maintenant qu'elle est pleinement dans son identité. Il n'y a que maintenant qu'elle retrouve, en retrouvant cette liberté, en retrouvant cette possibilité de retrouver le contact avec son bien-aimé, alors elle se retrouve elle-même, elle retrouve son identité et elle retrouve cette parfaite paix comme nous-mêmes, nous pouvons la retrouver lorsque nous retrouvons cette liberté avec le Seigneur. Mais nous verrons ça effectivement tout à l'heure. Dans ce verset premier, les filles du harem veulent que la Tsulamite reste encore avec elles. Reviens, reviens, on veut te regarder, on veut encore t'admirer. Et là, la Tsulamite répond d'une étonnante manière, elle dit, mais qu'est-ce que vous avez à regarder la Tsulamite comme une danse de deux cœurs? En fait, le mot cœur, partout dans la Bible d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ici ils ont traduit par le mot cœur, mais en fait, le mot cœur, c'est des camps armés. Qu'est-ce que vous avez à regarder comme si c'était une danse entre deux camps armés. Et en fait, il faut essayer d'imaginer la scène. C'est qu'elle, elle est en train de partir, et puis elle lui dit, mais reviens. Et en fait, elle est en train de dire, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes en train de réclamer comme une sorte de danse entre deux camps qui sont armés, deux camps ennemis. Vous me demandez de partir, de revenir, alors que je n'ai rien à faire ici. Voilà, donc c'est un peu cette manière de dire, qu'est-ce que j'ai retraduit ça comme ça en disant, pourquoi me demandez-vous de revenir comme si c'était une danse entre deux camps armés qui avancent et qui reculent? Pourquoi me retenez-vous alors que je suis enfin prête à partir? C'est un peu le sous-entendu de sa phrase. Alors les femmes du harem, pour justifier la raison pour laquelle elles aimeraient encore pouvoir la contempler, commence à elle faire la description de sa beauté. Il y a effectivement quelques éloges qui ressemblent aux éloges qu'avait fait le roi Salomon au chapitre 4, mais comme déjà ça se pressent dans notre lecture, mais les sous-entendus sont beaucoup moins érotisés que ce que le roi Salomon avait fait à la Tsulamite. Et il y a en plus un peu plus de détails. Vous savez que les femmes sont plus attirées par les détails que nous, les garçons. Alors ça commence par les pieds. Oh, qu'ils sont beaux tes pieds. Ça, c'est un détail que les garçons ne peuvent jamais regarder. De beaux pieds. Elle dit, voilà, de beaux pieds. Alors, au-delà des beaux pieds, c'est probablement sa démarche noble et gracieuse que les filles, que les femmes du harem mettent en évidence. Elles disent qu'elle a des hanches bien arrondies, hein, c'est la notion des colliers, des hanches harmonieuses. Quand il est parlé de ton sein, on dit tiens, un sein, elle n'a qu'un seul sein, la Tsulamite. Non, en fait, ce mot-là, il serait plus justement traduit par ton nombril. D'ailleurs, c'est le mot-là. Vous avez peut-être ce mot-là, d'ailleurs, dans votre Bible, non? Toi, tu as ventre, oui. Alors, effectivement, en ce mot-là, ça veut dire à la fois ventre, entrailles et nombril. Donc c'est pour ça qu'effectivement on peut comprendre que, vu la description qu'il fait, je me suis perdu, ton sein est une coupe arrondie. Voilà, donc cette notion d'un petit creux qui apparemment est élégant. Deuxième partie du verset 3, ton corps, c'est là qu'il y a la notion en fait. Alors ton corps est un tas de froment, je ne sais pas si vous prendriez ça comme un comme un compliment extraordinaire, espèce de tas de froment. Super, hein. Mais là c'est vrai que là ça peut pas s'imaginer. Mais vous allez très bien comprendre vite fait. En fait, déjà, c'est pas forcément le corps en tant que tel, même si on peut le comprendre en tant que tel, mais c'est plutôt, il précise, c'est le ventre. Là aussi, ça correspondrait plus à cette partie du corps. Ton ventre est comme un tas de froment. Alors là, on se dit, en plus... Mais c'est pas du tout la notion de tas de froment qui est importante, mais c'est la couleur. Voilà, la couleur du froment. Et à l'époque, la couleur du froment était considérée, là c'est vraiment entre guillemets, comme étant la plus belle couleur de peau humaine qu'il y avait. Voilà, c'était les critères de l'époque. Comme on l'a vu, ils aimaient les peaux qui étaient plutôt claires. Donc c'était considéré, la couleur du froment qui était amenée à maturité était considérée à l'époque comme la teinte de peau qui était la plus belle. Après on arrive au verset 4 et on se rappelle que quand il était parlé des fangs, rappelle la comparaison avec les fangs qui évoque la douceur qu'inspirait la peau de la Sulamite. Le verset 5, un rappel aussi là, c'était, quand je dis rappel, c'est que c'était déjà des notions qui étaient abordées par le roi Salomon. Il est parlé du cou qui est comme une tour et qui évoque sa stature, son assurance. La deuxième partie du verset 5, tes yeux sont comme les étangs de Hesbon. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est que dans la région de Hesbon, il y avait des bassins qui avaient été creusés, donc ça faisait effectivement comme des sortes des étangs. Et ce que l'on doit comprendre, c'est que ses yeux reflétaient la lumière comme ces étangs reflétaient la lumière. On a tous vu le bel éclat que fait les rayons de soleil dans l'eau. Et ben c'est le sous-entendu qu'il est donné là. La troisième partie du verset 5, le nez est comme une tour du Liban. Alors j'espère là que c'est pas la longueur du nez, mais qu'est-ce qu'il dit là, la tour du Liban qui regardait en direction de Damas? En fait, c'est une tour de garde, c'est une tour d'observation. Et c'est vrai, ça c'est général, on sait que le nez donne du caractère au visage. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, le sien est comparé à une tour de garde, mettant ainsi en évidence le regard alerte de la fille, le regard sûr, le regard vigilant, l'assurance que lui donne effectivement son nez, l'assurance que lui donne, qui est conférée à son visage. La tête est comme le Carmel. Alors le Carmel était un lieu qui était connu pour avoir une forêt très abondante. Donc voilà, en fait, sa chevelure était abondante, épaisse. Quand il est parlé qu'elle a la couleur pourpre, il est peut-être là, fait référence qu'elle avait peut-être des reflets un peu roux dans ses cheveux. Et puis vous avez compris, les boucles, elle avait sûrement donc les cheveux ondulés. Alors le roi la s'immisce. Et le roi profite que des éloges des femmes du harem pour glisser lui aussi ce que l'on verra, sa dernière tentative de séduction. Mais plus que sa dernière tentative de séduction, vous allez voir que dans sa dernière élan, c'est surtout là que va se révéler ses réelles motivations. Je ne vais pas faire de longs commentaires, vous allez vite comprendre le caractère très érotique de ses propos. Alors au verset 8, il commence à la comparer à un palmier. On n'était pas trop surpris, il avait déjà comparé la Sulamite à des arbres du verger, vous vous rappelez, au chapitre 4. Mais ça commence fort, au verset 9, un palmier sur lequel il s'imaginait monter dessus. Après, il compare la poitrine de la jeune fille à une grappe de raisin qu'il s'imaginait saisir. Il compare son souffle, sa respiration, comprenez l'image, au parfum des pommes qu'il respire. Il compare sa bouche à un vin excellent qu'il voulait goûter, et déjà la dernière fois, c'était déjà la première, hein, il avait déjà comparé ça et on sentait qu'elle avait coupé court. Et là, la Sulamite coupe court directement. Et non seulement la Sulamite coupe court, autant la dernière fois, elle avait freiné. Rappelez-vous, hein, la dernière fois que Salomon avait essayé de faire cette approche, en disant, oh, je vais aller boire mon lait, je vais aller boire mon vin. Ah bah oui, allez boire, sous-entendu, allez boire au buffet du roi. Mais là, c'est plus seulement, elle va pas seulement détourner l'attention. Là, elle va littéralement renvoyer cet homme dans ses placards et sans aucun ménagement. Qu'est-ce qu'elle répond ? Ta bouche, alors verset 10, ta bouche est comme un vin excellent. Et là, elle coupe. Elle dit, oui, ce vin-là, il coule pour mon bien-aimé, mais il glisse sur les lèvres de ceux qui s'endorment. Qu'est-ce que fait la Sulamite ? Elle reprend effectivement l'image du vin qui coule de sa bouche. Elle dit pas non. Mais ce vin qui coule de sa bouche, c'est pour mon bien-aimé, pour lui seul. Ah oui, il coule aisément, il coule abondamment. Ça, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de restriction. Il coule librement pour mon bien-aimé. Par contre, pour les autres, et surtout pour le genre de bonhomme comme toi, pour ceux qui s'endorment avec du vin qui coule encore de leur bouche. Vous avez déjà vu ce genre de situation ? Hein ? Et vous avez tous déjà des mines un peu comme ça. Pourquoi ? Parce que, personnellement, j'ai vu que deux genres de catégories comme ça. Soit les gens qui sont complètement ivres, et ils s'endorment dans leur beuverie, ils ont encore le vin. Ou alors la deuxième catégorie, c'est... Pardonnez-moi, je ne veux pas être désagréable, mais vous savez, ces vieillards qui n'ont plus trop la force de retenir ceux qui boivent et ça coule. Image pas très flatteuse, mais c'est exactement ce qu'elle dit. Et il glisse sur les lèvres de ceux qui s'endorment. Elle dit ça au roi Salomon. Vous voyez la différence ? Là, elle est vraiment en train de lui dire, là, c'est bon, je t'ai compris, et maintenant, et l'image bien plus flatteuse qu'elle renvoie au roi, effectivement, le compare à quelqu'un de vulgaire, à quelqu'un de grossier, sans savoir vivre, sans tact, vivant même dans l'orgie. Alors l'image de la Sulamite est peut-être choquante, voire même outrageante. Mais n'oublions pas que la réalité du roi ne l'est pas moins. Rappelez-vous que le roi, lui, il a des centaines de concubines. À la fin de sa vie, il en aura même un millier. Alors la réalité du roi est bien plus choquante et outrageante à l'égard de l'amour que l'image qu'elle donne. Alors c'est vrai que ça peut être choquant dans la bouche de la Sulamite, mais tellement vrai, tellement vrai. Oui, l'image de la Sulamite est horrible, mais dans le domaine de l'amour, la réalité du roi l'est tout aussi. Et puis nous verrons la semaine prochaine que la Sulamite commencera un nouveau poème d'amour à l'égard de son bien-aimé. Alors, quelques leçons à retenir de ce passage. Le verset premier nous parle de la délivrance. La délivrance. Désolé. Tant que nous flirtons avec le péché, nous sommes sous l'influence du péché. Tant que le cœur de la Sulamite se laissait quelque part séduire par les attraits du roi et par l'ambiance du roi, elle était devenue prisonnière de ce contexte. Pourtant, on pourrait dire que la Sulamite n'a pas péché. Elle n'a pas péché, la Sulamite. Regardez comme elle a résisté au roi. Elle ne l'a pas embrassé. Elle a détourné ses efforts. C'est vrai. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la fin du chapitre 6 ? Et il faut attendre la fin du chapitre 6. Elle n'a pas péché au sens où elle n'a pas commis l'action de morale grave. Mais n'empêche que c'est seulement à la fin du verset 6 qu'elle reconnaît que dans son cœur, elle s'est laissée séduire. La Bible nous dit en Hébreux chapitre 3, verset 13, que la séduction du péché endurcit le cœur. Pas besoin de pécher, pas besoin de mettre la main dans le plat, Il suffit juste que déjà dans notre cœur, il y ait la séduction du péché pour que le processus du péché, de l'endurcissement, commence déjà à nous atteindre. Lorsque nous sommes séduits par les choses du monde, notre communion avec le Seigneur commence déjà à s'étioler, n'est-ce pas? Il suffit juste que déjà dans notre cœur, il y ait déjà le petit goût pour le péché, pour que déjà dans notre cœur, une distance s'établisse avec le Seigneur. Le péché, avant d'être un acte, commence toujours par être une préférence de cœur, une affection. Alors heureusement, la prise de conscience d'être séduite par le péché est importante. Mais ce passage-là nous montre que le confesser devant Dieu est essentiel pour la délivrance. Il faut prendre conscience qu'on s'est laissé séduire par dans notre cœur, mais il faut surtout le reconnaître, dire « Seigneur, je reconnais que dans mon cœur, je me suis laissé emporter par une fausse séduction. » Et là, il y a donc la délivrance. Et tout comme la séduction endurcit le cœur et l'emprisonne, la repentance et la confession libèrent le cœur et nous libèrent et nous ramènent à notre identité d'enfant de Dieu qui se caractérise par cette parfaite paix que l'enfant de Dieu peut connaître. Amen. Et c'est pour ça que l'on voit que son identité, Sulamite, cette parfaite paix, est complètement liée à cet état de démarche, de retour de liberté et de séparation à la séduction. Les versets 2 à 6, il y a là toute cette description, tous ces éloges qui sont faits à la Sulamite. Et comme au chapitre 4, nous avions vu que la plupart des traits de beauté, on pouvait les associer à l'Église, ben là c'est pareil. Les traits de la Sulamite, nous devrions les retrouver dans l'Église. Et c'est une description qui est complémentaire à celle du chapitre 4. Alors, voyons rapidement ces différents aspects. Au verset 2, où nous est parlé des pieds, comment ne pas parler de Romains 10, verset 15, en vous citant ce verset, qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Eh oui, ces beaux pieds auxquels sont fixées les chaussures de l'Évangile. Amen. Qu'il nous est appelé de porter en Éphésiens chapitre 6, verset 15. Les hanches. Les hanches, c'est cette partie du corps. Et en fait, c'est toute la partie des hanches et des reins. Et donc, on peut associer les hanches aux reins qui sont dans la Bible, symbole de la force. Et je vous rappelle que nous sommes appelés à porter les fardeaux les uns des autres. Galates chapitre 6, verset 2. À se supporter mutuellement. Colossiens chapitre 3, verset 13. À porter les faibles, à relever les affligés. Le verset 3 avec le nombril complète l'image des saints. Nous avions vu d'ailleurs la dernière fois que les saints, on avait vu que l'Église est amenée à nourrir les faibles dans la foi. Mais rappelons-nous aussi que le nombril nous rappelle la naissance. Et donc le nombril complète l'image des saints où l'Église doit enfanter et nourrir des nouveau-nés spirituels. Que Dieu nous fasse grâce. Nous sommes appelés à enfanter des nouveau-nés. L'Église ne doit pas seulement être cette belle fiancée qui se prépare à la rencontre de l'époux. Bien sûr, on doit l'être. On doit. Mais l'Église devrait être également cette femme en travail, cette femme qui accouche. Amen. Que le Seigneur nous fasse grâce de remplir ce rôle dans ce monde. Au verset 3, deuxième partie du verset 3 avec le corps, évidemment c'est l'image première de l'Église, n'est-ce pas? Romains chapitre 12, verset 5, il y en a bien d'autres, mais j'ai choisi celui-ci. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. L'image du corps qui est plus richement décrit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12. Corps qui est appelé à être solidement assemblé et qui tire sa force de Dieu lui-même, comme il est dit Colossiens. C'est ça, Colossiens, chapitre 2, verset 19. Le corps uni, corps attaché les uns aux autres. Au verset 5, il nous est parlé du cou. Le cou, c'est ce qui nous rattache à la tête, qui nous rappelle notre lien indispensable avec la tête. qui, rappelons-nous, est évidemment Jésus-Christ. Amen. Colossiens chapitre 1, verset 18. Christ est la tête du corps de l'Église. Alors, je ne sais pas, je me suis posé une question en réfléchissant. Est-ce que le cou fait partie de la tête ou est-ce que le cou fait partie du corps? Vous allez me dire, oh Benoît, tu nous poses des questions, toi aussi. Ça n'a pas beaucoup de sens. Non, mais bon, je me suis quand même amusé à me dire que nous, en tant que corps, nous devons tout faire pour aller vers la tête, n'est-ce pas? Mais de la même manière que la tête nous fait une bonne grâce d'être attaché au corps avec le Saint-Esprit. Amen. Alors, la réponse est toute trouvée. Verset 5, les yeux, qui là aussi doivent plonger les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, nous dit Jacques, chapitre 1, verset 25. Et oui, que nos yeux soient plongés dans l'eau de la parole. Et le nez, ce fameux nez qui est comparé à une tour de garde, bah comme nous, comme l'Église, qui doit être vigilante. Vigilante par rapport au danger, vigilante par rapport au loup, vigilante par rapport aux faux prophètes, vigilante par rapport aux fausses doctrines. Et nous savons que nous sommes dans un temps où les gens se donnent une multitude de docteurs. Ah, comme on aime entendre des choses agréables. L'Église doit être là, vigilante, les yeux fixés, pas n'importe où, mais fixés sur Jésus-Christ. Amen. On doit tenir debout, garder la sainte doctrine. C'est la seule chose que Dieu nous demande de garder. Franchement, hein. Enfin bref, on ne va pas développer la thème, mais c'est vraiment notre position. L'Église doit être cette gardienne et l'appui de la vérité. Tiens, j'ai oublié cette référence, mais elle aurait été très adéquate. Colonne et appui de la vérité, gardant les yeux fixés sur Jésus, orientés vers Jésus. Et la tête qui est élevée. Alors comme nous l'avons dit, la tête c'est qui? C'est Jésus. Et nous savons que Jésus c'est notre tête et c'est lui seul qui doit être élevé au milieu de nous. Amen. S'il y a une personne qui doit être élevée au milieu de nous, c'est Jésus-Christ. Une personne qui doit être exaltée au milieu de nous, c'est Jésus-Christ. Une personne qui doit être glorifiée au milieu de nous, c'est Jésus-Christ. Le corps qui est l'Église n'a pas d'autre vocation que d'élever, faire connaître, glorifier, exalter le nom de Jésus-Christ. Amen. Et la chevelure, ben oui, la chevelure, qui n'est pas sans rappeler l'enseignement symbolique que Paul nous donne dans 1 Corinthiens, chapitre 11, où Paul associe à la fois la longueur des cheveux et le port d'une marque sur la tête, rappelant la soumission de l'Église à Jésus-Christ. Et oui, jusque-là, le Seigneur a tout pourvu. Et oui, aux cheveux des femmes de l'Église est associé à un message, la présence d'un roi, comme ici, et plus encore l'autorité du roi des rois. Amen. Alors que les boucles de nos cheveux nous rappellent ce message divin, que Christ est le chef de l'Église. Les versets 7 à 10, oh, ce sera très court, on a vu là hein, toute la manière très, très sensuelle, très agressive du roi Salomon là. Il met carte sur table. Hein. Oh, je te compare à un palmier sur lequel j'aurais voulu monter dessus. Bon, voilà, c'est bon, là. Là, il a craqué, là, Salomon. Ben oui, le vrai visage du séducteur. La Bible nous dit en 1 Timothée, chapitre 5, verset 24, je paraphrase le verset, mais Paul prévient, il dit que le péché de certains est évident du premier coup d'œil, alors que le péché d'autres ne se découvre que plus tard. Et c'est vrai, c'est une réalité. Et des gens comme ça, par leur flatterie, par leur apparence, par leur séduction, ils paraissent bien. Mais tôt ou tard, leur péché, leur mensonge, leur hypocrisie, leur faux-semblant finit par se manifester. Tôt ou tard, le vrai visage se manifeste. Et puis terminons avec le verset 10. Aspirez au bien, oui, mais coupez avec le mal aussi. En fait, par sa prise de position courageuse. Enfin, la jeune fille coupe court avec toutes les stratagèmes de Salomon. Elle coupe court avec la situation. Et c'est vrai, depuis le début, elle a toujours affirmé son attachement au bien-aimé. Dès le départ, je suis à mon bien-aimé. Toujours, elle avait son cœur, ses sentiments qui étaient portés vers le bien-aimé. Et on s'est encouragé à avoir cette même mentalité. C'est vrai. Mais maintenant, elle marque enfin clairement son dégoût pour le séducteur. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, on ne doit pas seulement dire « Oh Seigneur, je t'aime », mais il faut aussi que nous sachions couper avec toutes les séductions, les mensonges, les mentalités de ce monde. C'est dans le psaume 15 que vous verrez, c'est ce psaume qui décrit le juste. Alors, il est capable de vivre dans la vérité, dans la justice, il est prêt à perdre des intérêts personnels. Et puis, il y a ce verset qui est un peu bizarre, il dit « Il regarde avec dédain celui qui est méprisable ». Il dit « Bah attends, c'est pas très chrétien, ça. Regarder avec quelqu'un, avec dédain celui qui est méprisable, c'est orgueilleux, c'est prétentieux. » Non, c'est pas le sens de la phrase. C'est-à-dire qu'il prend vraiment de la distance de cœur avec ceux qui vivent dans le péché. Et là, la Sulamite, elle coupe court. L'Église ne confesse pas seulement son amour pour Jésus, mais l'Église marque aussi son dégoût, son mépris, son recul avec l'esprit et la mentalité du monde. C'est pas possible à la fois de confesser le nom du Seigneur et en même temps de prendre plaisir avec toute la mentalité, les mensonges, les séductions, la puanteur de ce monde avec son mépris, avec sa bassesse, avec ses comparaisons, avec ses courses orgueilleuses. C'est pas possible. Il faut aussi, effectivement, que dans notre cœur, il y ait comme de la distance, comme du dégoût à l'égard de ces choses-là. Alors, amen, aspirer au bien, oui, mais sachons aussi couper avec le mal. Amen.